À l'occasion des dernières vacances, j'ai découvert la galerie marchande qui s'appelle Quartier Libre à l'Escar. Vous connaissez? Ok. Vous savez combien de boutiques il y a? Non? Trop. Soixante boutiques. Mais je voulais vous dire que j'habitais en région parisienne, quand on habitait en région parisienne, j'allais faire mes courses à Vélizy 2, centre commercial Vélizy 2. 162 boutiques. Plus de 100 000 mètres carrés de galeries marchandes. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et encore, c'est rien. Est-ce que certains d'entre vous sont allés à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, ou ont fait escale à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis? Ouais, certains. Je vois qu'il y a certaines mains qui se lèvent. Vous savez que c'est le plus grand bâtiment du monde, le terminal 3 de l'aéroport de Dubaï. 1 500 000 km². Mètre carré. Je suis peut-être planté de 3-0 là. C'est ça. 1 500 000 mètres carrés. Donc, voilà. En Europe, le plus grand bâtiment, c'est le marché aux fleurs d'Alsmer aux Pays-Bas, merci. Alors, je ne sais pas, vous, c'est où, c'est quoi le plus grand bâtiment dans lequel vous êtes jamais rentré? Je ne sais pas si. Ben, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ici. Alors, ce n'est pas la taille des locaux qui compte, en l'occurrence ici, mais c'est le bâtiment que tous les croyants, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, c'est ce bâtiment-là que forment ces croyants, qui est le plus grand bâtiment de tous les temps. Le plus grand chantier de l'univers, c'est celui que les croyants forment quand ils sont unis à Christ. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à voir ensemble avec Francis et Gisèle. Et on va relire ce même texte de l'apôtre Paul et nous allons continuer à notre réflexion. C'est parti. Vous avez été construits sur les fondations que sont les apôtres, ces prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Voyez ici comment l'Église est présentée comme un chantier toujours en cours de construction. Plus grand chantier de tous les temps, le plus grand bâtiment de tous les temps. Un chantier, un bâtiment qui continue à grandir. Et dans ces trois versets, c'est comme une sorte de visite guidée de ce bâtiment que Paul nous propose. Et on va voir d'abord les différents matériaux de construction. On peut visualiser les différents matériaux de construction de ce chantier. Ensuite, on verra comment ces différents matériaux s'agencent pour devenir ce bâtiment qu'est l'Église. Et ensuite, on prendra un peu de recul pour voir ce que c'est finalement, ce à quoi ça ressemble une fois que les différents matériaux de construction sont agencés les uns avec les autres. Donc, on va commencer avec cette première partie. On va se focaliser sur les matériaux de construction. On va commencer à parler des fondations. Les fondations, c'est en général pour que le bâtiment tienne, qu'il soit bien stable. En général, c'est la partie invisible. On est obligé de creuser. On ne pose pas un bâtiment à même le sol. On est obligé de creuser d'abord. Et ensuite, une fois qu'on a creusé profondément, on pose les fondations pour que le bâtiment soit solide et bien stable. C'est un peu comme les racines d'un arbre, pour vous donner une autre image. L'arbre ne tombe pas parce qu'il est bien ancré profondément dans le sol. C'est pareil pour les fondations d'un bâtiment. Et Paul affirme au verset 20 que les fondations de l'Église, ce sont les apôtres. Et toujours d'après le verset 20, les apôtres, il les décrit comme étant les prophètes de Dieu, ses représentants, ses porte-paroles. Mais alors comment est-ce qu'on comprend ça, nous, aujourd'hui? En quoi l'Église est-elle construite sur les fondations que sont les apôtres? Ce qu'on sait, nous, c'est que les apôtres, ils ont été les témoins oculaires, ils ont vécu avec Jésus. Ils l'ont vu. Et ils nous ont laissé ce témoignage prodigieux qu'est le Nouveau Testament. Et nous, notre foi, notre vie chrétienne, elle est basée sur quoi? Sur le Jésus-Christ, tel qu'il est décrit justement dans le Nouveau Testament. Vous comprenez pourquoi Les apôtres sont les fondations, ont constitué les fondations de toute l'Église. En rédigeant le Nouveau Testament, ils ont établi ces fondations. Tout ce que nous croyons, toutes les actions que nous menons, que nous faisons, eh bien, elles reposent sur ce que les apôtres ont écrit au sujet de Jésus dans le Nouveau Testament. Ça, c'était pour les fondations. Paul, il nous parle aussi d'une pierre que vous avez remarqué, une pierre un peu particulière, une pierre un peu plus grosse que les autres, qu'on appelle la pierre angulaire. Alors, on est un peu coincé parce qu'aujourd'hui, dans les bâtiments, on n'utilise plus de pierre angulaire. Depuis que le métal a été inventé et maîtrisé, à chaque coin des bâtiments, on coule dans le béton, on coule des brins métalliques qui permettent au bâtiment de ne pas tomber, une armature en métal. Mais avant, ce n'était pas le cas. Avant, comment on faisait pour qu'un bâtiment ne s'écroule pas? Eh bien, aux quatre coins, on mettait une pierre qui était plus grosse et qu'on appelait la pierre angulaire. Et son rôle, bien évidemment, c'était d'unir à un angle les deux parties du mur qui arrivaient de chaque côté. Alors c'est bizarre que Jésus soit décrit comme pierre angulaire. C'est bizarre, et puis quand on lit l'Ancien Testament, ça fait des échos, parce que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs paroles qui parlent d'une pierre angulaire qui va être très particulière. Je vais vous lire cette prophétie du psaume 118, verset 22. « La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. » Paul ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit justement que cette pierre angulaire qui a été rejetée, eh bien, c'est le Christ, c'est l'accomplissement de cette prophétie du psaume 118. C'est sa mort sur la croix. Mort par la faute des hommes, rejeté par les hommes. Mais Dieu, en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant Seigneur, en lui redonnant sa place qu'il a toujours eue de Seigneur de l'univers, eh bien, Dieu lui a donné, devant les yeux de tout le monde, la pierre principale, la place principale dans l'Église, la pierre angulaire. Grâce à Jésus, l'Église repose dessus, l'Église repose sur Jésus, exactement comme une pierre angulaire joue dans un bâtiment. Sans pierre angulaire, un bâtiment ne tient pas. Eh bien, sans Jésus, l'Église ne tient pas. Tout dépend de Jésus dans l'Église. L'Église est née il y a 2000 ans, parce que Jésus est mort, il a donné sa vie pour elle, pour se constituer cette Église. Troisième et dernier matériau de construction, c'est la simple pierre du mur. Par deux fois, Paul dit à ses lecteurs, vous avez été construit. Vous avez été construit pour être une habitation de Dieu. Donc ce sont bien ces lecteurs, ce sont bien les chrétiens qui sont comme des pierres vivantes, les pierres du mur. Donc ça, c'était les différents matériaux qui servent à la construction de l'Église de Dieu, le temple de Dieu. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à voir comment ces différents matériaux s'agencent pour former justement ce temple. Les étapes de la construction. Dans ce passage d'Éphésiens, Paul il dit que l'Église doit être construite sur. C'est pas un hasard s'il y a cette préposition. L'Église est construite sur les fondations. On l'a vu, le Nouveau Testament, c'est le fondement de l'Église. L'Église est née et elle continue à vivre aujourd'hui de sa rencontre avec le Jésus-Christ tel que décrit dans le Nouveau Testament. Alors je voudrais vous demander pourquoi vous venez à l'Église en fait. Est-ce que vous venez à l'Église pour louer Dieu? Est-ce que vous venez à l'Église pour rencontrer du monde, vivre la communion fraternelle? Peut-être que tout ça, c'est oui, c'est juste. Ce sont des bonnes raisons de venir à l'Église. Mais est-ce que principalement, nous ne devrions pas venir à l'Église pour entendre la parole de Dieu qui nous parle de Jésus-Christ, sur laquelle notre foi est fondée, sur laquelle notre vie est basée? Nous devrions venir à l'Église pour entendre ensemble la parole de Dieu et y répondre ensemble de façon adéquate. Si nous le louons, si nous le prions, si nous écoutons sa parole, si nous nous édifions mutuellement, c'est parce que nous voulons répondre de façon adéquate à la parole de Dieu, à l'invitation de Jésus. Ce qui nourrit l'Église, c'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament prépare la venue de Jésus, le Nouveau témoigne au sujet de Jésus. Et je peux vous garantir que le bonheur du pasteur, c'est quand tout le monde lit la Bible, la parole de Dieu. Quand tout le monde s'accroche à Jésus tel qu'il est annoncé dans la Bible. Ça me rend heureux, moi personnellement. Être construit sur les fondations. Alors la pierre angulaire maintenant, on y revient. Paul nous encourage à être unis à la pierre angulaire. Il dit quasiment deux fois la même chose. Écoutez le verset 21 et 22. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez remarqué que les deux versets commencent par la même chose. En lui. Et en lui, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire uni, uni à Jésus, croire en lui, uni à lui par la foi. Et qu'est-ce qui se passe quand on est uni à Jésus par la foi? Eh bien, Jésus est notre avocat auprès du Père. Quand le diable vient nous accuser auprès du Père pour pour ces mauvaises choses que nous pensons, que nous disons, que nous faisons, eh bien, Jésus est notre représentant. Il intercède auprès du Père, il est notre avocat. Mais si nous ne sommes pas unis à lui, cela ne se produit pas. Et Dieu reste en colère après nous. Mais si nous sommes unis à Christ par la foi, alors il devient notre représentant. Et il affirme, oui, j'ai payé pour lui. J'ai payé pour lui. Donc il est en règle avec toi. Voici ce qu'il dit en tant qu'avocat lorsqu'il se rend auprès du Père. Et selon Paul, lorsque nous sommes unis alors avec Jésus, lorsque nous sommes en lui, alors eh bien, nous sommes comme les pierres d'un édifice, nous sommes construits ensemble, nous sommes coordonnés pour former ce bâtiment qui s'élève et qui grandit. En disant ça, Paul il nous invite aussi à prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls chrétiens. Déjà rien qu'à Pau, nous ne sommes pas les seuls chrétiens, et puis il y a des chrétiens en France, il y a des chrétiens partout dans le monde. Unis à Christ, les différentes pierres que nous sont ajustées en fonction des dons que nous avons, et le bâtiment s'élève. Et nous ne sommes qu'une infime partie de ce bâtiment gigantesque qu'est l'Église universelle de Dieu. Toutes les personnes qui croient en Jésus, qui lui font confiance pour être sauvées, toutes ces personnes qui demandent pardon à Dieu, c'est ceux-là qui sont constitués ensemble et unis à la pierre angulaire et qui forment la maison de Dieu. C'est une belle image d'unité de présenter l'Église comme un seul et unique bâtiment. C'est vrai qu'on est tous différents. On est séparés par des barrières de l'âge, du sexe, de l'apparence, de l'intelligence, des convictions politiques, statut social, origine ethnique. On est tous différents, mais Dieu nous invite à dépasser nos différences, parce qu'il nous a tous réunis dans ce même bâtiment, tous réunis dans l'Église. Il est mort sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nous tous, pour nous rassembler. Et il nous invite à dépasser donc nos différences. Souvenez-vous de ces paroles fortes de Jésus. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Nous avons à conserver cette unité, unis dans un même amour pour Dieu et unis dans un même amour les uns pour les autres. On est construit ensemble avec nos différences. Ça, c'est les étapes de la construction. Lorsque chaque membre est uni à Christ, la pierre angulaire par la foi. On repose, on est construit sur les fondations, le Nouveau Testament, les apôtres, et on est construit ensemble et le bâtiment s'élève. Alors on va prendre un peu de recul maintenant et on va regarder le bâtiment. Paul nous dit à quoi ressemble ce bâtiment. Il utilise deux mots, deux expressions. Je vous relis les versets. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Deux expressions, un temple saint dans le Seigneur et la demeure de Dieu par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ces deux expressions, qui sont un peu compliquées, qui méritent d'être expliquées en tout cas? Alors, on a déjà commencé à se rendre compte tout à l'heure, pendant l'introduction du culte avec Francis et Gisèle, on a commencé à discerner ce que ça voulait dire que l'Esprit Saint, que Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Avec cette image de la tente, on a parcouru l'histoire d'Israël avec Francis et Gisèle tout à l'heure. À l'époque de Moïse, après l'Exode, Dieu qui habite une tente portative, la tente de la rencontre dans le désert. Avec le roi Salomon ensuite, cette tente de la rencontre qui devient le temple de Jérusalem. Et Dieu habitait une partie bien particulière de ce temple. Il n'était pas accessible à tout un chacun. Il se cachait d'une certaine façon derrière un rideau, dans la partie très sainte du temple. Il était d'une certaine façon inaccessible à cause de nos fautes. On a vu ensuite que Dieu était venu habiter de façon parfaite dans un homme, Jésus-Christ. Dieu s'est incarné, il est devenu l'homme Jésus-Christ. Et aujourd'hui, eh bien, on a vu que Dieu habite dans l'Église. Ce temple que nous formons, c'est un bâtiment spirituel. Dieu y habite par son Esprit. Cet Esprit, il nous l'a donné, et c'est grâce à lui que nous avons la foi. C'est le sens du verset 22. Nous formons collectivement une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Dans ses lettres aux Corinthiens, Paul présente Dieu comme habitant le croyant individuellement par son Esprit. Mais ici, dans sa lettre aux Éphésiens, on apprend qu'il nous habite aussi collectivement en tant qu'Église, tous ensemble. Vous vous souvenez de ces paroles de l'Évangile de Matthieu aussi, probablement, là où deux ou trois sont rassemblés au nom de Jésus. En mon nom, je suis au milieu d'eux, je suis au milieu de vous. Jésus qui se rend présent par son Esprit, qui vient habiter en nous. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est au milieu de nous? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il habite au milieu de nous? En général, quand on parle de la présence de Dieu, il est question en général de la présence de Dieu pour bénir, ou pour soutenir son peuple. Et dans le sens contraire, lorsque Dieu est absent, lorsqu'il ne se rend pas présent, eh bien, c'est parce qu'il s'est détourné de nous à cause de nos fautes. Lorsque les chrétiens se rassemblent, Dieu est au milieu d'eux par son esprit, non pas parce que les chrétiens seraient parfaits, mais parce que Jésus a payé pour leurs fautes. Et donc, c'est une grâce qu'il nous fait de se rendre présent à nous, pour nous bénir, pour nous soutenir. Alors, il ne s'agit pas de bénédictions qui seraient des bénédictions matérielles, il s'agit de bénédictions spirituelles comme la joie, la paix, l'amour que l'on peut ressentir en étant tous ensemble réunis en son nom à lui. Des bénédictions spirituelles. Dieu nous bénit aussi très certainement parce qu'il nous transforme. Lorsqu'on se rassemble ensemble lors des cultes, que nous méditons la parole de Dieu, eh bien Dieu nous donne les forces pour nous aider à changer. Dans certaines églises, le bâtiment se vide 5 minutes après la fin du culte. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience où tout le monde est parti très très vite. Je peux vous garantir que j'ai constaté que ce n'était pas le cas ici. Parfois, j'ai même faim et j'aurais envie de vous chasser même parfois. Mais en fait, ce n'est pas vrai. J'en suis extrêmement heureux de savoir que vous restez et que vous vivez la communion fraternelle, que vous êtes heureux de vous retrouver et de vivre des choses ensemble parce que c'est Dieu qui nous unit. Nous sommes unis par son esprit. Par exemple, tout à l'heure, restez manger. Il y a un repas fraternel. Et même si vous n'avez pas prévu de quoi, vous pouvez rester, on fera des parts un peu plus petites. C'est pas grave. Je suis sûr que là aussi, Dieu nous bénira d'une façon particulière à être tous ensemble pour lui. Et je ne sais pas si vous saviez que Dieu se sert de son Église pour se révéler au monde. Il le dit un peu plus loin, Paul le dit dans la lettre aux Éphésiens, toujours cette même lettre. Écoutez ce qu'il dit en Éphésiens 3, verset 10. Il dit « Les autorités et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent la sagesse de Dieu Comment? Par l'Église. L'Église, c'est l'un des moyens que Dieu a mis à disposition pour se révéler au monde. Et Francis et Gisèle l'ont dit tout à l'heure. Quand on est accueilli, quand on est bien accueilli dans une Église, eh ben, qu'est-ce que Dieu manifeste? Il manifeste son accueil. Quand on se sent aimé pour qui on est dans une Église, eh ben, c'est comme si Dieu manifestait son amour inconditionnel pour nous. Quand on vit le pardon mutuel dans une Église, c'est pareil, on peut expérimenter le pardon conditionnel de Dieu. Donc vous voyez comment Dieu se manifeste au monde à travers aussi l'Église. Et bien sûr, pour que nous reflétions Dieu, le Saint-Esprit nous équipe. Il a encore beaucoup de travail à faire en nous, le Saint-Esprit. Il nous transforme peu à peu à l'image de Jésus pour que nous menions une vie qui lui plaît. D'ailleurs, mener une vie qui lui plaît, c'est bien la question qui est derrière un temple saint. Le mot saint, la sainteté ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est consacré à Dieu. Quelque chose qui est saint, un objet qui est saint, c'est un objet qui est consacré à Dieu. Un objet qui lui appartient. Eh bien là, c'est nous qui lui appartenons. C'est nous qui sommes consacrés à Dieu. Nous sommes appelés à le servir avec qui nous sommes, avec les dons qu'il nous a donnés. Nous sommes appelés à mener une vie qui l'honore. Alors c'est vrai, malheureusement, aucun d'entre nous ne peut prétendre à mener une vie qui honore parfaitement Dieu. Et Paul le sait, un peu plus loin dans Éphésiens 4, verset 30, il va dire « N'attristez pas le Saint-Esprit. » N'attristez pas le Saint-Esprit. Un encouragement à mener une vie qui plaît à Dieu. Un encouragement à revenir à Dieu régulièrement pour lui demander pardon et re-rentrer dans cette communion avec lui. Je vous encourage à lire la Bible pour vous-même, pour découvrir ce qui plaît à Dieu. Je vous encourage à faire partie d'un groupe de maison, les fameux PPP dans notre église, les fameux groupes pain, partage, parole, pour lire la Bible à plusieurs, pour s'encourager mutuellement au bien, pour s'encourager à l'amour fraternel. Et qu'est-ce qu'on devrait rechercher dans tout ça? Eh bien, toujours un peu plus loin, par rapport à cet esprit qui est présent en nous, Paul dit, Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis de l'esprit ». C'est ça que nous devrions rechercher, la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit-Saint, il habite déjà en nous. Il nous change de l'intérieur, il nous accorde la foi, il nous accorde la repentance par laquelle nous nous tournons vers Jésus-Christ pour être sauvés. Et dans la vie de tous les jours, l'Esprit-Saint nous aide à vivre cette relation avec Dieu. Il nous transforme pour que nous devenions meilleurs. Mais ces transformations ne se feront pas sans nous. Il nous arrive de lutter contre l'Esprit de Dieu. Il nous arrive de l'attrister, par exemple, quand nous faisons quelque chose, alors que nous savons pertinemment que ce n'est pas bien de le faire. C'est là qu'on a besoin de se souvenir de ce cadeau que Dieu nous a fait. L'Esprit qui vient habiter en nous. Nous sommes un temple saint. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi de nos vies. Nous sommes appelés à mener une vie qui plaît à Dieu. Il nous invite à nous laisser remplir par son Esprit, à nous laisser renouveler intérieurement par son Esprit, pour que nous gagnions en maturité. Dans les semaines à venir, Florian va animer une formation à la découverte de la maturité. On en reparlera tout à l'heure au moment des annonces. Inscrivez-vous à cette formation si vous ne l'avez pas déjà faite. Et vous découvrirez ce que ça veut dire d'être un temple saint pour le Seigneur. Vous découvrirez comment faire pour progresser dans votre vie personnelle avec Dieu. Comment faire pour progresser en sainteté. Quelques mots de conclusion. Paul compare donc le peuple de Dieu à un bâtiment. Les fondations sont les apôtres. Jésus est la pierre angulaire de tout le bâtiment. Les chrétiens, ils forment les murs. Les murs qui s'élèvent sur les fondations. On est unis et on s'ajuste ensemble grâce à notre union à Jésus-Christ par la foi. Et on forme la maison où Dieu habite, il est présent spirituellement pour nous transformer, pour nous bénir, pour manifester sa présence dans le monde à travers l'Église. Et ça, c'est un appel pour nous à mener une vie digne de sa présence en nous. Et ce bâtiment, eh bien, il est toujours en cours de construction. C'est le plus grand bâtiment de tous les temps. Mais un jour, nous dit la parole, un jour, ce bâtiment, il sera terminé. Lorsque tous les croyants du monde, croyants passés, présents et sans doute à venir, auront été rassemblés par Dieu, dans ce cas-là, à ce moment-là, le bâtiment sera terminé à la fin des temps. Et l'Apocalypse nous parle de ce moment, et visiblement, on entendra une voix à ce moment-là, une voix venant du trône de Dieu. Voici ce que la voix dira. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Ce que nous dit le livre de l'Apocalypse pour nous encourager, c'est qu'un jour, ce bâtiment que nous formons sera fini et Dieu résidera en nous et nous le verrons face à face, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Grand sujet d'espérance et de joie pour nous, les chrétiens, que de savoir qu'un jour nous verrons face à face le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur. Amen.